France Culture.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Esprit public. Aujourd'hui, émission spéciale Israël attaque l'Iran, le point de non-retour. Israël et l'Iran se sont à nouveau attaqués. Cette nuit, l'État hébreu a frappé des cibles liées au programme nucléaire iranien. L'Iran a riposté par des tirs de missiles sur le territoire israélien. Troisième jour de conflit entre ces deux puissances du Moyen-Orient. Téhéran et Tel Aviv, distantes de 1600 km, promettent chacune de frapper l'autre encore plus durement. L'offensive a été déclenchée dans la nuit de jeudi et vendredi par l'armée israélienne, alors que les États-Unis s'apprêtait à un nouveau cycle de pourparlers indirects avec le régime iranien. Ce n'est pas la première fois que les deux pays s'affrontent militairement. Il y avait déjà eu des attaques et des répliques en octobre dernier, mais cette fois-ci, l'ampleur est tout autre. Nous allons donc y consacrer l'intégralité de cette émission. Et nous allons le faire en compagnie de Farid Vahid. Bonjour.
Bonjour.
Chercheur franco-iranien, vous co-dirigez l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès. Sylvie Kaufmann, bonjour.
Bonjour.
Éditorialiste au Monde, votre dernier ouvrage chez Stock, Les aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie. Thomas Gomard, bonjour.
Bonjour Hervé Gardette.
Historien, directeur de l'IFRI, l'accélération de l'histoire, les nœuds géostratégiques d'un monde hors de contrôle, c'est votre dernier livre chez Talendier. Bertrand Badi, bonjour.
Bonjour.
Professeur en relations internationales, vous avez publié chez Flammarion l'art de la paix. Et puis nous sommes en direct depuis Tel Aviv en Israël avec Michel Taubman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste franco-israélien, membre de la revue Politique Internationale et fondateur du groupe de dialogue judéo-arabe Shalom Salam. Je vais commencer avec vous, Michel Taubman. Je le dis, vous êtes à Tel Aviv ces jours-ci. Vous êtes chez vous. Est-ce que vous êtes confiné chez vous? Est-ce que vous pouvez désormais sortir? Puisque je crois que ces dernières heures, les habitants notamment de Tel Aviv étaient appelés à rester calfeutrés, soit à leur domicile, soit dans des abris lorsqu'il y a des alertes.
Écoutez, donc je suis avec ma femme dans la ville de Bat Yam, qui est au sud de Tel Aviv, et qui a été la ville la plus touchée, la plus frappée par les attaques iraniennes, et où on dénombre au moins 6 morts pour l'instant. Donc pour nous, tout a commencé dans la nuit de jeudi à vendredi. On a reçu une alerte comme j'avais jamais vu en fait en Israël, c'est-à-dire une alerte annonçant l'état d'urgence et qu'il fallait se préparer à se mettre aux abris. Et donc, on a vécu trois nuits assez difficiles. J'ai même du mal à vous parler, vous voyez, parce que c'est trois nuits quasiment sans dormir, puisque à chaque alerte, les sirènes sonnent très très fort. Vous pouvez pas dormir vraiment. Vous descendez aux abris. Donc, on a un abri souterrain, parce que nous n'avons pas de pièces fortes, de pièces de fortes. Je trouve pas le mot.
D'abri.
Enfin, le mot en français. D'abri. Nous n'avons pas d'abri à l'intérieur de notre appartement. Donc, comme la plupart des Israéliens, nous allons au sous-sol. Il y a un grand abri, donc où on se retrouve avec tous nos voisins, souvent en pyjama, et donc plusieurs fois dans la nuit. Mais alors, la nuit dernière a été la plus traumatisante et la plus dure, puisque des immeubles ont été touchés juste à côté de chez nous. On a entendu vraiment 4-5 frappes très très violentes tout près de chez nous. Les vitres ont bougé. Et là, ce matin, avec mon épouse, on est sortis dans la rue. Et il y a évidemment un paysage de dévastation avec des immeubles éventrés. Et puis dans la principale rue de Bat Yam, on dénombre au moins 6 morts, je crois. Et puis, il y a encore des gens qui sont sous les décombres et les secours qui s'activent pour essayer de les sauver. C'est vraiment aujourd'hui le sentiment de vivre une vraie guerre. Rien à voir avec ce que j'ai pu connaître ces 10 ou 12 ou 13 dernières années, notamment les opérations régulières contre le Hamas, avec les roquettes du Hamas, le dôme de fer qui les interceptait pour la plupart du temps, à chaque fois, et puis notamment la guerre la plus longue, ça a été en 2014, puisqu'elle a duré 5 à 6 semaines. Il y a eu des morts civiles côté israélien, mais très peu en proportion à la dizaine de morts au moins qui ont succombé depuis deux jours. Hein. Donc c'est beaucoup, et il y a évidemment le sentiment ici d'être entré dans à nouveau, après le 7 octobre, de vivre à nouveau une guerre qui frappe les civils, qui frappe l'intérieur d'Israël, et dont on ne voit pas l'issue à court terme.
Michel Taubman, vous évoquez le dôme de fer. Manifestement, alors, même si cette défense anti-aérienne israélienne a fonctionné, mais elle n'a pas entièrement fonctionné, est-ce que ça veut dire que vous vous sentez, peut-être aussi les Israéliens, la population israélienne, vulnérable, peut-être comme jamais vous ne l'avez ressenti.
Écoutez, je pense qu'on peut pas ressentir ce qui a été ressenti le 7 octobre. Il y a eu un effet de surprise. Là, il y a eu aussi un effet de surprise. Mais disons que la guerre avec l'Iran, elle est entamée, disons, elle est prévue depuis 23 ans. Elle est dans les cartes depuis qu'a été révélé le programme militaire secret en 2002 par des opposants iraniens aux États-Unis. Donc le conflit avec l'Iran, il dure depuis longtemps. Évidemment, on est toujours surpris au moment où ça éclate. Mais là, on est évidemment, on n'a pas affaire à une organisation terroriste, mais on a affaire à un État puissant avec une armée. Et ce qui est nouveau, c'est que ce ne sont pas des roquettes comme celle du Hamas ou du djihad islamique. Mais là, on a eu, d'après ce que j'ai compris cette nuit, une attaque de drones. Des Iraniens, donc qui a mobilisé la défense de l'espace aérien israélien. Et cette attaque de drone a préparé une attaque de missiles balistiques. Et donc, beaucoup de missiles ont été interceptés. Mais statistiquement, quand un ennemi ou quand l'Iran envoie 100 missiles, il est impossible de tous les intercepter. Il suffit de 10 ou 15 ou 8 missiles qui touchent une cible. Pour évidemment causer des dégâts et causer des morts. Et là, il faut dire quand même que l'armée iranienne vise indistinctement les populations civiles. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne visent pas directement... ils ont visé le quartier du ministère de la Défense, mais ils visent directement les populations civiles, et je dirais aveuglément, puisque je crois, l'information n'a pas été confirmée, mais que dans le nord du pays, une famille arabe a été touchée, des villages arabes ont été touchés, donc on vise indistinctement la population israélienne. Voilà.
Même si le régime iranien dit, voilà, lui qui vise des cibles militaires. Vous restez avec nous, Michel Thomann. Je voudrais alors qu'on aille non pas à Téhéran directement, mais avec vous, Farid Vahid. Je crois que vous êtes né à Téhéran, que vous avez en tout cas de la famille là-bas. Alors, quelles sont les nouvelles, si tant est que vous puissiez en avoir, de votre famille à Téhéran et de ce qui se passe aussi en miroir avec ce que nous racontait Michel Thomann en Israël?
Alors, pour le coup, à Téhéran, il y a eu vraiment cet effet de surprise parce que... Disons que oui, ça fait des années, tout le monde s'attend à une éventuelle guerre entre l'Iran et Israël. Mais les Iraniens attendaient surtout dimanche les négociations avec les Américains. Donc c'est vrai que les choses se sont faites de manière quand même assez étrange. Trump continuait à dire qu'il voulait éviter une guerre. Je pense que sincèrement, que ça soit le régime, sinon ils seraient pas en train de dormir dans leurs immeubles, dans leurs appartements, ou la population iranienne, ils s'attendaient pas à une telle attaque. À la limite des attaques contre les installations nucléaires en Natanz, si, c'était tout à fait envisageable. Mais les images qu'on a vues...
Un des sites d'enrichissement
de quelques dizaines de kilomètres d'Ispahan, avec des installations souterraines qui n'ont d'ailleurs pas été apparemment complètement détruites, à Frodon non plus. Mais Téhéran, c'était très inattendu de voir ces images. Et pour le coup, là où c'est un peu compliqué, j'aimerais bien l'expliquer quand même à ceux qui nous écoutent, en fait, les gardiens, ils habitent la plupart, hein. C'est pas une surprise, dans les quartiers du nord de Téhéran. Bon, quand j'ai quartier, ça fait pas la taille du quartier latin ou du marin. Hein. Ça fait la taille de Paris, quoi. C'est très grand, Téhéran. C'est plusieurs fois la taille de Paris.
C'est plutôt les quartiers riches.
C'est les quartiers, on va dire, bourgeois, bien, voilà, les gens, on va dire, occidentalisés, même très occidentalisés. C'est le cœur, on va dire, de l'Iran anti-régime. Donc déjà, le challenge pour les Israéliens, c'est de viser sans faire trop de morts civiles, parce que ça serait de tirer une balle dans le pied, parce que ça serait tuer des gens qui sont quand même plutôt pro-États-Unis, anti-Hamas, pro-démocratie. Et après, voilà, pour parler de la famille, écoutez, c'est difficile d'avoir des nouvelles, et ils utilisent des VPN pour utiliser WhatsApp pour répondre. Il y a cet effet de sidération, de choc, de panique et de sentiment d'être pris en otage par le régime et par les Israéliens. Vous savez, ils détestent le régime. Personne n'a envie, autant que les Iraniens, de voir une démocratie, de se débarrasser du régime. Mais je ne pense pas qu'ils soient persuadés que la démocratie va arriver non plus par les bombes. Surtout que bon, quand vous visez, on va dire, les chefs militaires des gardiens ou à la limite les installations nucléaires, tout le monde comprend l'idée. Oui, peut-être que beaucoup d'Iraniens ne vont pas être tristes. En revanche, quand on tape les installations pétrolières, l'idée aujourd'hui, je pense, de l'armée israélienne, c'est pas de détruire les installations nucléaires iraniennes, c'est un effondrement du régime, par laquelle ils espèrent, in fine, un avènement d'un Iran démocratique ou d'un démantèlement du pays. C'est les deux hypothèses qu'on peut imaginer. Et je pense que les Iraniens n'adhèrent pas forcément non plus quand même à cette méthodologie, à cette façon de faire.
J'ai vu un de vos posts sur les réseaux sociaux, Farid Vaïd, où vous disiez que votre famille, justement, qui est à Téhéran, avait du mal à s'informer parce que les réseaux sociaux étaient coupés et que c'était vous qui les informiez de ce qui se passait chez eux.
En fait, ils ont difficilement accès avec des VPN à WhatsApp, donc ils peuvent envoyer des messages, mais ils n'ont plus accès très difficilement à Twitter ou aux sites d'information. Bon, le régime iranien est dans sa propagande habituelle, donc vous lisez les news en Iran, ils disent qu'ils ont détruit plein d'avions de chasse américains, qu'ils ont capturé des pilotes israéliens, bon tout ça c'est faux. Donc c'est très difficile pour eux de s'informer, et même les ordres d'évacuation qui sont donnés par exemple ce matin par l'armée israélienne n'arrivent pas forcément aux gens sur place, parce qu'ils n'ont pas les canaux pour s'informer. Donc oui, en fait, c'est très bizarre. Ils passent par les Iraniens de l'étranger qui leur envoient des messages pour dire « évitez ces quartiers-là ». Ils disent qu'ils vont frapper ces quartiers-là. Donc oui, c'est une situation, on va dire, de choc. Mais à la fois, je voudrais nuancer, ils sont pas non plus en panique totale. Il faut pas oublier que les Iraniens ont quand même vécu 8 ans de guerre contre l'Irak, 300 000 morts. Si vous voulez, mon père, quand il avait 17 ans, il a perdu son frère. Donc bon... C'est plutôt, on va dire, du désespoir plus que de la panique. Je pense qu'on voit de la panique en Israël, en Iran, ils vont même pas dans les bunkers, quoi. Ils sont dans les apparts, ils regardent. C'est aussi parce que je pense, pour le coup, je rejoins ce qui a été dit auparavant. Il y a plus de précision aussi dans les frappes israéliennes. Donc je pense que les civils iraniens, bon, s'ils habitent dans un immeuble où il y a un commandant des gardiens, c'est pas idéal. Mais globalement, je pense que oui, effectivement, les Israéliens, contrairement à Gaza, au sud de Beyrouth, je pense qu'ils savent ils font très attention et ils savent que s'ils font trop de morts civiles en Iran, la population peut très vite aussi quand même se retourner. Et ça peut être contre-productif pour eux aussi. Donc, voilà.
Sylvie Kaufmann, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, est-ce que c'est une guerre? C'est-à-dire, on a déjà fait une émission qui était à peu près dans cette configuration-là, d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, au mois d'octobre, lorsque l'Iran avait attaqué Israël en riposte à des attaques israéliennes sur le sol iranien, et on parlait pas encore de déclaration de guerre. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le qualificatif qui vous paraît le plus approprié pour dire ce qui est en train de se passer, justement, depuis 3 jours?
Quand on a 2 États qui sont en train de s'affronter militairement, je pense qu'on peut parler de guerre, en effet. Après, la question que vous posez, qui se pose après la vôtre directement, c'est est-ce que ça va s'étendre, et combien de temps ça va durer? Donc ça, c'est évidemment des questions auxquelles je ne suis pas capable de répondre à ce stade. Ce qu'il y a, c'est que on parlait de surprise tout à l'heure, et en réalité, Netanyahou a dit que ça fait 8 mois que cette opération était en préparation depuis 8 mois. En réalité, on peut aussi, si on élargit la focale, on peut dire que ça fait 30 ans qu'Israël se prépare à cette opération d'une certaine manière, puisque il considère que l'Iran lui pose une question existentielle. Et finalement, depuis le 7 octobre, il y a un enchaînement d'événements qui fait que ce qui se passe maintenant paraissait d'une certaine manière inéluctable. Et il y a une concentration de faits. Donc il y a effectivement, il y a le 7 octobre où Israël considère ces attaques terroristes menées par le Hamas qui amènent Israël à se dire il faut lutter pour notre survie. Il y a les événements qui suivent, l'offensive sur Gaza contre le Hamas, le Hezbollah, les alliés de l'Iran qui sont de plus en plus affaiblis, et donc l'Iran se trouve dans une position qui est la plus faible depuis très longtemps. Il y a autre facteur, le fait que le processus d'enrichissement de l'uranium et de construction de son programme nucléaire est de plus en plus prononcé, et que l'AIEA, l'Agence pour l'énergie atomique, le constate. Il y a le fait qu'Israël se sent de plus en plus puissant et pense qu'il peut remodeler le Moyen-Orient à son image et le dominer. Et puis il y a aussi extérieurement ce qui se passe à Gaza est en train de faire monter en Europe notamment une hostilité de plus en plus grande et de plus en plus exprimée à la politique de Netanyahou. Donc il se dit j'ai une fenêtre d'opportunité en fait. Et il y a les États-Unis qui sont en train de mener cette négociation avec l'Iran pour essayer de trouver un accord sur l'arrêt du programme nucléaire par la voie diplomatique. Et ça, Netanyahou, en fait, ça ne lui plaît pas. Il préfère, on le sent depuis un bon moment, qu'ils préfèrent la voie militaire.
Voilà, tout ça, c'est un ensemble d'événements qu'on va avoir l'occasion de réexaminer d'ici la fin de cette émission. Sur le plan strictement militaire, Thomas Gomard, alors quand on regarde une carte, on constate quand même que Israël et l'Iran ne sont pas des voisins directs. En tout cas, il y a 1600 km, je crois, alors à vol d'oiseau entre Téhéran et Tel Aviv. Ça n'est pas un problème en termes de capacité militaire pour chacun des belligérants, c'est-à-dire qu'ils peuvent se mener une guerre comme ça au-dessus d'autres territoires.
Mais ce qui s'est passé cette semaine, c'est le fait que Israël prend l'ascendant militaire sur l'Iran, et notamment par la maîtrise de l'air. C'est ça qui est en train de changer le rapport de force. Et Israël le fait en ciblant de manière inattendue trois choses distinctes. D'abord, l'arsenal balistique de l'Iran, qui est son principal atout stratégique, précisément pour toucher Israël, et qui, d'une certaine manière, très indirectement, est une manière de, je mets ce terme entre guillemets, légitimer l'opération aux yeux de l'opinion. Ensuite, des sites nucléaires. Et enfin, et c'est ça qui est le plus inattendu, des chefs militaires et des structures de commandement. Au fond, ce que Israël est parvenu à faire, c'est à avoir une opération, dans le jargon dit, de grand style, c'est-à-dire qui passe à la fois par une supériorité dans l'espace exoatmosphérique et qui passe aussi par une supériorité à la base, par de l'infiltration de commando, par l'envoi de drones depuis le territoire iranien sur des cibles iraniennes. Et ça, c'est tout à fait inattendu, et ça révèle le degré de pénétration du système iranien par Israël. C'est le premier point. Le deuxième point,
l'Iran a répliqué avec des missiles balistiques.
Oui, mais l'Iran aujourd'hui n'a plus de force aérienne, en fait. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que les choses sur la durée vont rester dans ce rapport de force. Mais ce que Israël est parvenu à faire sur un pur plan strictement militaire, je dirais tactique, de l'ordre des opérations à proprement parler, est complètement inattendu. Et il le fait dans un moment d'enlisement à Gaza, mais également de succès militaire spectaculaire au Liban en décapitant le Hezbollah, en menant des opérations en Syrie et en continuant à se battre contre les Houthis. Pourquoi il le fait maintenant? C'est qu'en fait, et c'est une des grandes différences dans la culture stratégique israélienne, c'est que la culture stratégique israélienne était construite pour des opérations très ponctuelles, des guerres courtes. Or, aujourd'hui, Netanyahou a inscrit Israël dans une guerre permanente. Il n'a jamais eu une armée aussi puissante en termes de mobilisation de ses réservistes. Alors, c'est ce qui pose d'autres problèmes sur lesquels on reviendra probablement. Mais d'une certaine manière, il se sent plus fort que jamais sur le plan militaire et il obtient des résultats tactiques extrêmement spectaculaires. Je pense qu'il faut insister là-dessus. Le deuxième point, si vous permettez, regardez, c'est que on a peut-être tendance toujours à remettre en question la détermination israélienne. Moi, ce qui me frappe dans ce qui s'est passé cette semaine, c'est le lien qu'il faut faire entre les opérations d'Israël contre les structures nucléaires de l'Irak au début des années 80 aux Iraks et la destruction de ce potentiel nucléaire. La même chose contre le potentiel nucléaire de la Syrie en 2007 et aujourd'hui ce qui est fait contre l'Iran. Dans les deux cas d'ailleurs, dans le cas de l'Irak et dans le cas de la Syrie, il faut voir ce que ça a eu comme effet politique pour ces deux pays ensuite concernés. Et je pense que cette détermination est encore très sous-estimée et que, pour les raisons que j'indiquais, Netanyahou, à tort ou à raison, mais se considère aujourd'hui en situation de remodeler le Moyen-Orient.
Alors cette détermination, Bertrand Badie, on peut l'examiner à travers deux termes auxquels qu'on peut questionner quand il y a comme ça une déclaration de guerre, quand il y a une offensive militaire, c'est celui de la légitimité et celui de la légalité. Est-ce que, selon vous, alors Israël est légitime à attaquer l'Iran au regard de la menace que fait peser l'Iran sur la paix régionale avec son programme nucléaire et au regard de la légalité, c'est-à-dire est-ce qu'un État peut comme ça déclencher un conflit quand il veut où il veut, et sans avoir manifestement eu besoin d'obtenir l'autorisation de son principal allié, les États-Unis.
Alors, il y a la question de la légalité et la question de la légitimité. En termes de droit international, une agression peut être prise à l'initiative d'un État lorsqu'il est directement menacé, lorsqu'il est en situation de légitime défense. Rien n'indique qu'on en soit là. C'est-à-dire que quand on met en avant le programme nucléaire iranien, une excellente chercheuse que vous connaissez bien, Thomas Héloïse Fayet, puisqu'elle travaille sous votre direction, a montré que rien n'établit pour l'instant qu'il y ait des armes nucléaires fonctionnelles, c'est-à-dire opérationnelles. Donc, il n'y a pas de menace. Deuxième réflexion, si véritablement le simple fait de disposer de l'arme nucléaire constitue une menace, alors à ce moment-là, tout détenteur pourrait être l'objet d'une agression légitime. Et moi, j'ai été très surpris d'entendre le président de la République, il y a 3 jours, nous expliquer que l'arme nucléaire iranienne est une menace pour l'Europe. Une menace pour l'Europe. Alors, d'abord, cette menace n'est pas concrètement établie. Et deuxièmement, je ne vois pas en référence à quel scénario on pourrait ainsi légitimer sur le plan de la légalité. Mais, Hervé Gardette, je crois que pour répondre parfaitement à cette question, il faut se poser la question qu'on n'a pas encore posée directement, c'est quel est le but réel de cette guerre. Et là, je me sens très perplexe. Pourquoi ? Parce que, évidemment, ce qui est affiché, c'est la destruction du programme nucléaire iranien, mais... D'abord, Ehud Barak, que l'on peut pas soupçonner d'islamo-gauchisme, d'antisémitisme ou de wokisme, nous explique que de toute manière, ce n'est pas possible.
Rappelez-nous, Ehud Barak.
Ancien Premier ministre et ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, donc il sait de quoi il parle, et il nous dit, mais on n'y parviendra pas. Et effectivement, les éléments qui nous reviennent, c'est que Natanz a été frappé, mais en superficie et non en profondeur, et on sait que pour démanteler les structures de centrifugeuses à Natanz, on a besoin de bombes pénétrantes dont ne dispose pas l'armée israélienne. Bon, donc d'une part, il y a un problème de faisabilité. Mais à côté de ce problème de faisabilité qui met en doute cette action, ce qui, moi, me gêne, et pour l'instant m'interroge, c'est l'extrême diversité des cibles. Alors, Thomas en a énoncé trois, mais il y en a d'autres. Il y a aussi les infrastructures en matière énergétique, c'est-à-dire des raffineries au sud, c'est-à-dire des réservoirs importants de carburant à Téhéran, et c'est quand même, par rapport aux frappes précédentes d'Israël, des ciblages qui n'épargnent pas la population civile. C'est-à-dire, si à Tel Aviv, si en Israël, on en est à une dizaine de morts, en Iran, on en est déjà à 80. Donc, je me demande si, derrière cette opération officiellement destinée à démanteler le programme nucléaire iranien, il n'y a pas 3 autres fonctions, et qui là nous mettent tout à fait hors de la problématique de la légitimité et de la légalité. Première fonction, est-ce que c'est du régime change, comme diraient les Américains ? Est-ce qu'il s'agit d'abattre ce régime ? Ça a été dit presque explicitement. Alors là, la légitimité et la légalité n'existent pas. Deuxièmement, est-ce qu'il ne s'agit pas, et ça, je pencherai pour ça jusqu'à plus ample informé, de créer un système chaotique au Moyen-Orient pour construire le contraste entre une puissance israélienne dominante et un chaos complètement énervé, complètement démantelé et qui est source de renforcement de domination. Et puis troisièmement, et je termine là-dessus, rassurez-vous parce que je vous vois déjà un peu paniqué, troisième élément, est-ce que ce n'est pas un truc diplomatique, je dis bien un truc diplomatique, pour réaligner les Occidentaux derrière Israël? Ça a marché. Tous les Occidentaux ont, sauf peut-être le Japon, si le Japon est occidental, ont approuvé cette initiative, alors que quasiment tous les pays du Sud global, sauf peut-être l'Inde, soutiennent l'Iran. Et je crois que cette configuration nouvelle est dangereuse, parce que elle est en train d'alimenter la pire des situations mondiales, c'est-à-dire un conflit Nord-Sud.
Alors peut-être qu'une des réponses à vos questions, à vos interrogations, Bertrand Badie, se trouve du côté de l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka, qui était interrogé il y a quelques heures sur France Info.
Notre opération a pour but de débarrasser Israël, de débarrasser le Moyen-Orient et le monde de la menace nucléaire iranienne. Et donc, nous avons attaqué des centres nucléaires iraniens et nous avons attaqué les capacités iraniennes de développer l'arme nucléaire. La riposte iranienne était une riposte qui a ciblé les civils. Donc deux civils ont été tués hier nuit, des bâtiments sont tombés à Ramat Gan, à côté de Tel Aviv. Et il va y avoir une réaction à cela qui pourrait être différente que celle de l'opération au début.
Michel Tobman, toujours en Israël, au sud de Tel Aviv, par rapport justement au projet du gouvernement israélien à travers cette attaque. Est-ce que c'est d'abord répondre à ce qui est considéré par Israël et par les Israéliens comme une menace existentielle? Et est-ce que le fait de faire tomber le régime serait une réponse à cette menace?
Alors, je voudrais dire que ici en Israël, on ne voit pas du tout les choses de la même manière que Bertrand Badi, que je salue à distance. Cher Bertrand Badi, ici, la légitimité, vous n'avez pas de la légalité, mais la légitimité de l'intervention israélienne fait l'unanimité. Ben, j'ai pas de sondage à ma disposition, mais je sais que jusqu'à ces derniers jours, et on le sait, une grande partie de l'opinion s'interrogeait sur la poursuite de la guerre à Gaza. Notamment sur l'incapacité de trouver un accord sur les otages, sur la rationalité militaire de cette guerre et la question de son débouché politique, sur la question de l'impopularité d'Israël par rapport au fait qu'on avait fait pression sur l'aide alimentaire. Il y avait beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup d'interrogations dans l'opinion sur la poursuite de la guerre à Gaza et sur la question palestinienne. Par contre, il n'y a pas d'interrogation sur le fait que l'Iran, la République islamique d'Iran, depuis sa fondation, a pour objectif proclamé de détruire Israël et qu'en même temps, elle a un vrai programme qui a été caché longtemps et un programme pour aller vers l'arme atomique. Alors, là, après, vous posez deux questions. C'est est-ce que elle était sur le point d'avoir l'arme atomique? Est-ce qu'elle avait décidé de s'en servir? Ce n'est pas pour les Israéliens, du fait de notre histoire ici, on est plutôt dans le schéma de 1967 et de la guerre préventive en considérant qu'il vaut mieux attaquer avant d'être détruit. Mais personne ici ne met en cause la légitimité de cette guerre pour les deux raisons que je vous ai données. Et puis, il n'y a pas de sentiment de panique, mais il y a un sentiment de gravité. Il y a un sentiment qu'on est entré dans une autre dimension que la guerre de Gaza. Et l'espoir, évidemment, et l'adhésion, finalement, à l'objectif proclamé d'ailleurs par Netanyahou de faire tomber le régime iranien qui est considéré comme le principal ennemi, le seul pays d'ailleurs qui refuse l'existence d'Israël, qui veut détruire Israël. Alors après, est-ce que ces objectifs sont réalistes? Est-ce qu'ils seront atteints? Quelles sont les motivations du gouvernement? Là, on peut en discuter. Mais sur la légitimité pour la majorité des Israéliens de cette intervention, je crois qu'il n'y a pas de discussion ici en Israël. Et on comprend aussi que les pays occidentaux, la France, les États-Unis, soutiennent Israël parce que eux aussi sont conscients du caractère déstabilisateur de l'Iran, pas seulement à travers la recherche de l'arme atomique, mais à travers, depuis des années, ses proxys, très affaiblis d'ailleurs par Israël, ce que les Iraniens appellent l'axe de la résistance, qui est considéré comme un foyer, à tort ou à raison d'ailleurs, mais qui est considéré par les pays occidentaux comme un foyer de déstabilisation du Proche-Orient.
Alors, sachant que sur la réalité de la menace nucléaire, alors il faut aussi se baser sur ce que dit l'AIEA, ce qu'a dit l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui venait de rendre un rapport disant alors que certes, l'Iran n'avait pas encore la capacité d'avoir l'arme nucléaire, mais qu'elle se dirigeait vers cet objectif. Farid Vaïd.
Ça n'a pas de sens tout ça. Je pense que l'opinion publique israélienne aussi est très, sans doute, manipulée par son gouvernement et leur vécu, mais ça n'a pas de sens.
Qu'est-ce qui n'a pas de sens? C'est-à-dire l'objectif
déjà sur la légitimité, bon, c'est pas le sentiment global d'une population qui compte, c'est le droit international. Qu'on soit bien clair, hein. Moi je suis franco-iranien et je suis le premier autour de cette table à vouloir un changement de régime en Iran. Donc qu'on vienne pas dire tu défends le régime, ça n'a pas de sens. Dans le droit international, c'est pas écrit que les droits sont réservés aux démocraties. Et les devoirs s'appliquent à tous. Non. Oui, Israël est une démocratie. Oui, l'Iran est une dictature religieuse. Mais est-ce que cela veut dire, donc, que la démocratie peut tout faire? Bah, si c'est le cas, bah, c'est fini. C'est ce que le Sud nous a d'ailleurs toujours reproché. C'est que vous êtes, en fait, hypocrite. C'est des doubles standards. Le droit, les droits de l'homme, le droit international, vous en parlez quand vous s'arrange. Et quand c'est vos alliés Et en plus, tous nos alliés, c'est quand même pas des démocraties. À ma connaissance, on vend des Rafales à l'Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats Arabes. C'est pas des démocraties. Donc en fait, ce qu'on est en train de dire au reste du monde, c'est que nos alliés ont le droit de tout faire, et les autres, ils ont droit à rien. Donc ça n'a pas de sens. Deuxièmement, l'Iran n'allait pas avoir l'arme nucléaire. C'est faux, l'AIEA le montre. Oui, ils avaient un programme nucléaire problématique. On va pas rentrer dans les détails, Thomas Gohar peut le faire beaucoup mieux que moi, il y avait les 60%, il y avait beaucoup de choses problématiques dans le dossier nucléaire iranien.
Les 60%,
ils allaient très loin.
90%
C'est même pas ça, ils étaient, parce qu'après avoir enrichi 90%, il faut le mettre sur un missile fonctionnel, opérationnel. Ils n'en étaient pas encore là, et avant qu'ils arrivent à ça, les Américains eux-mêmes, ils auraient réagi avant les Israéliens. Donc il n'y avait pas une menace d'un Iran nucléaire. Et même s'il y avait une menace d'un Iran nucléaire, la meilleure solution, c'est ce que les Français ont fait en 2015, et les Britanniques, et les Allemands, les Américains, c'était le JCPOA. C'était un accord nucléaire. L'Iran respectait ses engagements. Encore une fois, j'ai aucune sympathie pour ce régime, mais il le faisait parce que ça les arrangeait, parce qu'il y avait une levée des sanctions, parce qu'il y avait 14% de croissance économique en 2016. Et la vérité, c'est ça le problème. On parle en fait d'un non-sujet. Le nucléaire, c'est pas un problème pour les Israéliens. Le problème, c'est qu'après un éventuel accord avec les Américains, c'est vrai, un régime problématique, fanatique, allait avoir une très grosse croissance économique. Ils auraient pu reconstituer un axe de la résistance. Donc en fait, on parle de deux choses différentes. Il n'y a pas de menace nucléaire, mais c'est vrai qu'on ne veut pas d'un accord. Et ça, bon, ça, alors il faut dire les choses clairement, que ce soit le Quai d'Orsay ou l'Élysée. On ne voulait pas d'un accord avec la République islamique d'Iran parce que ça leur donnait beaucoup trop de liberté de manœuvre économiquement, géopolitiquement. Donc cette menace nucléaire, ça n'a pas de sens. Et juste un dernier mot. On parle des civils qui sont morts en Israël. Vous savez, il y a 2-3 ans, on a beaucoup parlé de femmes de liberté, de soutien à la population iranienne. Ça serait chouette aussi quand même de parler un peu des civils qui sont morts en Iran. Parce que, en fait, tout ça pour moi, c'est ce que je vous disais. Ça n'a pas de sens parce que je commence un peu à être perdu. Je ne comprends pas la logique des choses. Tout le monde se perd dans les émotions. Il faut peut-être garder la tête froide, analyser les choses froidement. Et voilà, d'essayer de prendre des décisions un peu plus logiques.
Thomas Gohmert, est-ce que vous êtes aussi catégorique que Farid Vahid sur l'absence de menace nucléaire de la part de l'Iran ?
Non. Je pense qu'il y a une menace nucléaire et en fait, elle est plus profonde et effectivement complexe. Je rejoindrai Farid et Bertrand sur la complexité des choses. Mais je pense qu'il ne faut pas occulter plusieurs points qui sont d'une part les déclarations à répétition de la République islamique d'Iran dans son hostilité de principe à l'existence de l'État d'Israël. Le fait que c'est un régime qui non seulement menace, mais a tué aussi. Bertrand parlait de la position française. La position française s'explique aussi parce que l'État français a la mémoire longue, reptilienne, et donc se souvient aussi de l'attitude de la République islamique d'Iran contre les intérêts français, contre les diplomates et les soldats français. Je rappelle que c'est un régime qui prend des gens en otage. Et d'ailleurs, c'était effectivement frappant dans la déclaration du président de la République et dans le compte-rendu qui a été fait de son échange téléphonique avec le président iranien, de voir qu'il a commencé par rappeler le sort de nos deux ressortissants. Donc ça peut sembler complètement...
Ça n'a rien à voir avec le programme nucléaire.
On est bien d'accord. Ce que j'essaie de dire, Bertrand, c'est qu'il y a de la part, et c'est perçu comme tel, les perceptions sont à corriger, on est d'accord, mais il y a une hostilité de principe de la République islamique d'Iran contre Israël, et il y a une désignation par la République islamique d'Iran d'un certain nombre d'ennemis, dont la France. Voilà, ça c'est quelque chose qui est politiquement établi et à mon avis qu'on peut pas occulter. En revanche, je rejoindrai sur Farid sur le rappel qu'il faisait à juste titre du JCPOA et l'absurdité de cette situation. En réalité, c'est quoi
C'est l'accord de Vienne de 2015.
Voilà, c'est l'accord qui avait été négocié à la fois par ce qu'on appelle E3, c'est-à-dire Allemagne, Royaume-Uni, France, plus l'Union européenne, par la Russie, par la Chine, par les États-Unis et par la République islamique d'Iran. Pour faire simple, c'était arrêt du programme nucléaire iranien et levée des sanctions, effectivement, dans une perspective de développement économique.
Sauf qu'on voit bien qu'aujourd'hui, ces pays-là ne peuvent plus discuter ensemble. C'est-à-dire Européens avec la Russie, la Chine, les États-Unis.
Alors, il y a cette dimension sur laquelle il faudra effectivement revenir. Mais l'absurdité de cette situation, c'est que Donald Trump, s'est retiré de manière unilatérale de cet accord. Bon, et aujourd'hui, il veut rétablir, au fond, une discussion, une négociation sur les mêmes bases. Mmh. Avec une différence, c'est qu'au lieu d'être dans une approche multilatérale, il serait dans une logique uniquement bilatérale avec l'Iran, ce qui le valoriserait, ce qui l'aurait valorisé, ce qui lui aurait permis d'obtenir enfin le prix Nobel de la paix avec lequel il court désespérément. Mais c'est la situation d'absurdité et se situe là. Parce qu'en réalité, ce que l'Iran avait manifesté, c'était le fait d'être capable, compte tenu de son potentiel scientifique, technologique, de devenir ce qu'on appelle une puissance du seuil. C'est-à-dire d'avoir effectivement le niveau d'enrichissement, l'infrastructure, pour faire comprendre que si elle le souhaitait, et le si est très important, elle pouvait l'Iran, miniaturiser les armes, enfin transformer ce potentiel en armement, ce qui n'était pas encore le cas, effectivement.
Sylvie Kaufmann et ensuite Bertrand Badie.
Oui, je voudrais revenir sur la question de l'égalité et légitimité, qui sont deux choses différentes d'ailleurs. On peut considérer, dans certains points de vue, que cette attaque est légitime. Ça se discute, bien entendu, mais sur le point de la légalité, on est là dans le concept de la guerre préventive, ou de l'action préventive et préemptive, pardon, qui a été utilisée quand, rappelez-vous, en 2003 par les États-Unis contre l'Irak. Et là, on est dans un scénario qui rappelle un petit peu celui des armes de destruction massive dont les États-Unis disaient qu'elles existaient en Irak, que Saddam Hussein les avait développées et qu'il donc fallait intervenir militairement en Irak pour les détruire, puisqu'elles menaçaient la communauté internationale. Vous rappelez certainement de cette
Colin
cette
Powell.
Scène de Colin Powell, le chef de la diplomatie américaine, montrant une fiole à l'ONU, au Conseil de sécurité, pour dire « Regardez, elles existent ». Il l'a amèrement regretté après, il l'a dit, parce que ces armes de destruction massive, en réalité, n'existaient pas. Je ne dis pas qu'on est dans le même cas de figure ici exactement, puisque l'AIEA a dit ce qu'elle avait à dire. On peut discuter le fait, je crois qu'on sait que l'Iran n'est pas au point d'avoir l'arme atomique militaire. Mais on n'a pas de légalité. Au regard du droit international, il n'y a pas de résolution du Conseil de sécurité. Il n'y a pas de légalité internationale. Donc, en effet, je crois que là, la situation est assez claire. Israël a agi de son propre chef et il n'y a pas de droit international appliqué en l'espèce. Et ce qui est intéressant, c'est que, en effet, les pays occidentaux, en tout cas les pays européens, en déclarant qu'Israël, en défendant le droit d'Israël à assurer sa propre défense, finalement valide ce concept de guerre préemptive.
De son propre chef, avec peut-être aussi l'aide des Américains. En tout cas, les Iraniens disent ce matin, à Bertrand Badie, avoir des preuves d'une implication des Américains aux côtés des Israéliens dans cette offensive.
Oui, alors ça, je crois que c'est le jeu de dire ça. C'est-à-dire, plus le régime iranien va impliquer les États-Unis, plus il se met en position avantageuse dans une éventuelle négociation avec les États-Unis. C'est une façon de reprendre des atouts et c'est une façon de transformer un drame en possibilité de succès, c'est-à-dire dire aux États-Unis, vous voyez que on n'est pas si nul que ça parce qu'on fait quand même du dégât en Israël. Si vous voulez que nous nous arrêtions et que cela ne porte pas atteinte à vos intérêts, eh bien lâchez un peu de lest dans la négociation. Donc ça, c'est un point qu'il faut bien comprendre. Et je suis ni étonné ni effrayé par cette surenchère verbale qui d'ailleurs est un peu dans la culture persane. Hein. Bon. Ceci étant, moi, ce qui me gêne dans ce débat, c'est que on ne cesse de mêler quatre questions différentes. Et d'ailleurs, c'est pas de notre faute. C'est parce que c'est une volonté politique que de les confondre, d'utiliser l'une de ces dimensions pour aller à la rescousse des autres. La première dimension, elle est très simple. C'est est-ce qu'il y a une menace nucléaire iranienne et est-ce qu'on est en mesure de l'éteindre? En mesure de l'éteindre, je ne le crois pas. Et en tous les cas, c'est ce que disent et des observateurs et des politiques. Et d'autre part, est-ce que cette menace est réelle? Moi, j'ai toujours en tête cette phrase de Jacques Chirac, vous voyez que c'est loin, c'est ce débat, quand il était président et qui disait « Mais de toute manière, le risque d'usage stratégique d'une arme nucléaire par l'Iran est quasiment nul, car tout le monde sait que si ça se faisait, Téhéran serait détruit en 3 minutes ». disait Jacques Chirac. Et il a raison. Et cela permet d'éclairer ce qu'est la stratégie nucléaire iranienne, qui n'est pas une stratégie militaire. Personne ne se fait d'illusions sur la possibilité d'anéantir Israël. En revanche, c'est ce que j'appelle la dissuasion à l'envers, c'est-à-dire une dissuasion très politique. Soyez gentils avec moi, sinon on va se doter de l'arme nucléaire. C'est une espèce de chantage politique permanent. Et ce n'est pas cette façon de procéder, bien au contraire justement, qui va calmer l'ardeur nucléaire iranienne. La deuxième question, mais qui n'a rien à voir, c'est la nature du régime. Est-ce qu'ils sont sympas ou pas sympas, en gros, si vous voulez, pour simplifier, vulgariser la chose. Mais là, le régime change n'ouvre à aucun droit d'action militaire. C'est pas parce que la tête d'un prince ne vous revient pas, c'est pas parce qu'un régime est hideux, et souvent ce régime se comporte de cette façon, que l'on a un droit légitime de tuer ses chefs d'état-major, sa population, ses infrastructures pétrolières, etc. Il faut quand même réfléchir à cela. Et de même réfléchir à l'idée que jamais aucun droit international n'a légalisé le principe de la guerre préventive, et ça a été envoyé à la figure des États-Unis en 2003. Troisième élément, c'est la question de la déstabilisation régionale. L'Iran serait une puissance de déstabilisation. Oui, mais qui ne l'est pas, source de déstabilisation? Est-ce qu'un pays qui fait 60 000 morts à Gaza n'est pas une force déstabilisatrice? Qu'est-ce que c'est que ce concept de déstabilisation qui est en ce moment effectivement en train de décrire cette ruine politique, sociale, économique, humaine que constitue le Moyen-Orient? Ce serait quand même bon de réfléchir là-dessus. Mais moi, j'étais très étonné que Emmanuel Macron utilise cette formule pour uniquement charger l'Iran et exempter et donner le permis de tuer, en quelque sorte, à tous les autres. Et puis, il y a une quatrième question qui est: quel est l'ordre idéal? Quel est l'ordre visé? Et ça, bon, on part quand même d'une situation, et là je rejoins ce que disait Thomas tout à l'heure, où on est dans une grammaire de la puissance et où Israël considère que la seule façon d'assurer sa sécurité, c'est la carte de la puissance, et quand la puissance marche pas, bah c'est pas compliqué, faut un peu plus de puissance. C'est l'escalade dans la puissance, ça n'a donné aucun résultat, hein. Et donc ce qui me fait peur, c'est que on se trouve peu à peu dans une dialectique de la puissance et du chaos. C'est-à-dire la puissance sera efficace si tous les autres sont dans une situation chaotique. Oui, mais le chaos, il produit quelque chose qui s'appelle la rage. Et ça, c'est ce qui affaiblit la puissance de ceux qui ont été à l'origine du processus. Donc il faut réfléchir à tout cela, et ça fait quatre paliers de réflexion qui sont distincts les uns des autres.
Alors je rappelle que nous sommes en émission spéciale aujourd'hui dans l'Esprit public pour évoquer cette guerre entre Israël et l'Iran. Il est midi moins 20 sur France Culture, et puisque vous avez évoqué à plusieurs reprises Emmanuel Macron, je vous propose justement de l'écouter avec effectivement la France qui se range du côté des Israéliens.
France Culture, l'Esprit public. Hervé Gardette.
Je le dis avec la plus grande clarté, le risque de cette marche vers l'arme nucléaire par l'Iran menace la région, l'Europe et plus généralement la stabilité collective. Nous ne pouvons pas vivre dans un monde où l'Iran posséderait la bombe atomique, car c'est une menace existentielle et une menace pour notre sécurité à tous.
Voilà, c'était Emmanuel Macron avant-hier. Pour poursuivre cette discussion, donc, nous sommes toujours en compagnie de Bertrand Badi, de Farid Vaïd, de Thomas Gomard, de Sylvie Kaufmann et de Michel Topman, qui se trouve en Israël, au sud de Tel Aviv. Michel Topman, je ne sais pas si vous aviez entendu déjà la réaction d'Emmanuel Macron, mais est-ce que cette prise de position a été immédiatement considérée comme un soutien sans faille de la France et plus largement de la plus grande partie des Européens à l'initiative, à l'offensive israélienne?
Écoutez, il m'est difficile de répondre à cette question parce que j'ai pas eu de... Non, c'était le Shabbat, hein, tout était fermé, c'est l'état d'urgence, donc tout est deux fois fermé. Et j'ai pas vu de réaction officielle, hein, déclaration d'Emmanuel Macron. Et les relations entre Israël et la France sont très mauvaises, vous le savez, depuis plusieurs mois, à cause de la guerre à Gaza. Et puis, avec la volonté d'Emmanuel Macron de monter avec l'Arabie Saoudite ce sommet à New York, qui finalement a été reporté, en vue de la création d'un État palestinien. Donc, je pense que la position d'Emmanuel Macron, qui est dans la logique d'ailleurs de la position de la France et des Occidentaux depuis très longtemps, n'est pas la question essentielle aujourd'hui en Israël. Mais ce que je voudrais dire, pour essayer d'avancer le débat par rapport à ce qui a été dit, et moi je suis en Israël, donc je donne le point de vue et le sentiment qui règne ici, puisque c'est un peu mon rôle dans cette émission, je voudrais dire deux choses. Et peut-être pour rejoindre nos amis qui sont à Paris, autant personnellement, et je pense que c'est le point de vue des Israéliens, on considère légitime cette intervention israélienne préventive, même si c'est contraire au droit international. Par contre, la question, je pense, qui se posera pour Israël et pour les États-Unis, c'est la question de la sortie de crise. Et là, on retrouve avec Benjamin Netanyahou ce que disait l'un des intervenants tout à l'heure, le fait qu'on est entré maintenant dans des guerres longues et dans des guerres finalement sans fin, aussi bien pour Gaza et qu'avec l'Iran, on ne voit pas aujourd'hui d'objectif de compromis à court terme, c'est-à-dire les deux objectifs qui ont été donnés pour la guerre de Gaza après le 7 octobre, éradication du Hamas et libération des otages, n'ont toujours pas été atteints et ne semblent pas atteignables. Maintenant, les deux objectifs qui sont donnés dans cette guerre contre l'Iran, contre la République islamique d'Iran, éradication du programme nucléaire, je pense que effectivement tout le monde l'a dit, on ne connaît pas encore l'ampleur des dégâts, mais l'éradication complète du programme nucléaire semble peu probable, et la chute du régime, est-ce que c'est complémentaire, est-ce que c'est contradictoire, est-ce qu'à un certain moment, la guerre contre l'Iran, si elle cause des victimes civiles, ne va pas finalement aller à l'encontre de l'objectif du renversement du régime, parce que la population va, comme le disait Farid Vahid tout à l'heure, la population va se trouver entre le marteau israélien et l'enclume islamique. Donc là, il y a des questions. C'est peut-être Donald Trump qui a la clé, et Donald Trump qui a la clé en proposant très vite d'aller autour d'une table de négociation où l'Iran serait affaibli. L'Iran a été affaibli militairement et où, évidemment, l'Iran pourrait avoir moins en termes militaires, céder sur l'enrichissement d'uranium, mais peut-être avoir plus en termes économiques, parce qu'on peut trouver beaucoup de défauts au président américain, mais il y a une chose qui est claire chez lui, c'est qu'il n'aime pas la guerre et qu'il aime le business. Maintenant, est-ce que la dernière chose que je voulais dire, c'est ce que révèle cette guerre de la dégradation des relations entre Israël et les États-Unis. Les Américains ont été informés. Je pense que sur le plan militaire, logistique, il y a eu certainement discussions et certainement des feux verts qui ont été donnés par les Américains. Mais politiquement, Netanyahou a voulu dire à Trump qu'il était contre les négociations, qu'il était contre un nouvel accord. Et donc là, soit l'action d'Israël et celle des États-Unis restent contradictoires, c'est-à-dire Donald Trump se retrouve mis sur le côté, soit elles sont complémentaires, c'est-à-dire que l'action militaire israélienne permet aux États-Unis d'aller très vite vers la table de négociation avec l'Iran. Mais honnêtement, je pense que personne, ni ici à Tel Aviv, ni à Paris, ni ailleurs, ne sait exactement où on va aujourd'hui.
Thomas Domar, justement, est-ce qu'on est dans la contradiction ou est-ce qu'on est dans la complémentarité entre Israël et les États-Unis ?
Je crois qu'il faut souligner sur ce point-là l'habileté politique de Benjamin Netanyahou. Quand on lit son discours en anglais annonçant l'opération contre l'Iran, il y a trois choses qui sont frappantes. Il y a les remerciements au président Trump, alors même qu'il vient de...
Qui souhaite bon anniversaire.
Voilà, alors même qu'il vient de faire exactement le contraire de ce que voulait le président Trump. Ça s'appelle, en langage non diplomatique, un bras d'honneur, mais il le fait très bien. Il y a une manière, au fond, de ressouder la société israélienne, et Michel Taubman l'a rappelé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de doute en Israël sur la nécessité de conduire des opérations contre l'Iran au moment où il y a cette situation à Gaza sans finalité politique et où Israël semble complètement enlisé dans ce qu'il faut faire à Gaza. Et ensuite, il y a aussi une adresse une déclaration auprès du peuple iranien, expliquant, au fond, nous avons vocation à établir des relations ultérieurement durables pour bien essayer de séparer l'opinion iranienne de ses dirigeants. Et donc ça, je pense qu'il faut, il faut voir la manière absolument, je ne sais pas, un jugement de valeur en disant ça, mais exceptionnelle sur le plan politique de Benjamin Netanyahou, qui a entraîné son pays depuis plusieurs années, avant même, évidemment, le 7 octobre, sur une pente illibérale, et qui n'est jamais aussi à l'aise que dans une situation de guerre permanente qu'il va, à titre personnel, à mon avis, vouloir entretenir. Alors, on verra combien de temps. Il y aura des élections en Israël. Michel Taubman l'a rappelé à plusieurs reprises autour à ce micro. Il y a aussi une contestation et des éléments au sein de la société israélienne. Mais enfin, c'est quand même très frappant de voir ce dirigeant, à mon sens, très aimablement, ridiculiser le président américain, qui se retrouve aujourd'hui à faire défiler ses troupes à Washington, sans être parvenu à imposer un cessez-le-feu en Ukraine, à Gaza, et qui ne tient plus le bras israélien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si vous m'autorisez, Hervé Gardet, je voudrais revenir sur cette idée, parce que je crois qu'elle est centrale. C'est, est-ce qu'on se trompe ou est-ce qu'on ne se trompe pas en mettant la question nucléaire en premier, je dirais, en tête de liste quand on parle de l'Iran? Je pense que c'est très important, avec toutes les, tous les points déjà soulevés par Farid et Bertrand. Mais j'en ajouterai un autre, c'est que je pense que ce qui se joue, évidemment, ce qui explique d'ailleurs la position française, c'est cette dialectique entre ordre, désordre et chaos. Pourquoi? Parce qu'on a un ordre international ou un désordre international qui a été limité depuis 1945 par le principe de non-prolifération. C'est-à-dire l'idée sur laquelle les cinq membres permanents du Conseil de sécurité étaient puissances nucléaires et à ce titre avaient des responsabilités particulières. Les observent-ils ou pas, c'est une autre question, mais c'était l'idée. Or, progressivement, on a eu un élargissement à 3 autres pays qui n'ont pas signé le traité de non-prolifération, qui sont Israël, l'Inde et le Pakistan, qui sont devenus puissances nucléaires. L'Iran a signé le TNP et donc il y a dans ce sujet-là la question fondamentale de est-ce qu'on considère qu'il est possible de réguler par le droit international? Je n'entre pas sur la discussion des doubles standards, parce que les doubles standards ne concernent évidemment pas que les Occidentaux. Les doubles standards dans le sud transactionnel sont aussi très spectaculaires. Mais je pense que cette question-là, à mon avis, il faut la garder à l'esprit quand on pense l'évolution et la situation de l'Iran, encore une fois, par rapport à cette dimension nucléaire.
À propos de la dimension géopolitique pour l'Iran, Farid Vaïd, on a vu ces derniers mois que le régime iranien a perdu, ou en tout cas a vu un certain nombre de ses soutiens être considérablement affaibli en Syrie, le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza. Qui soutient aujourd'hui, alors je ne parle pas au sein de la population iranienne, mais dehors, qui soutient l'Iran aujourd'hui?
Les pays arabes.
Alors on rappelle, bien sûr, l'Iran n'est pas un pays arabe, mais on ne peut pas supposer que tes
Non, mais personne, mais c'est pour ça, en fait, non, c'est surtout pas les Russes qui vont passer par la Caspienne pour leur donner des systèmes de défense antiaérienne, non. Personne. Et en fait, sur le papier, l'attaque israélienne a tout à fait son sens. C'est complètement compréhensible. Qu'est-ce qui causait problème? C'était l'axe, la fameuse axe de la résistance, qui était plutôt un axe, on peut dire, bon, du désordre, du terrorisme, on peut l'appeler comme on veut. Il n'y a plus d'Hezbollah. Il n'y a plus la Syrie. Il n'y a plus d'accès de l'Iran au Liban, à la Méditerranée. Le régime est très affaibli. Donc, évidemment, que sur papier, les Israéliens, c'est maintenant ou jamais qu'ils doivent frapper le régime. Mais je pense que la question nucléaire, effectivement, elle est centrale, parce que, évidemment, quand vous n'avez pas envie qu'un régime comme le régime iranien soit de l'arme nucléaire, il y avait un chantage, disons, voilà, de se mettre en état de seuil nucléaire. Je pense qu'ils n'auraient pas franchi le pas, mais ils faisaient quand même ce chantage. Et effectivement, c'est pas non plus acceptable, parce que ça peut être trop tard. Donc, tout ça, ça se comprend. Le problème, c'est sur le résultat. Comment ça va finir, tout ça? Honnêtement, on voit pas de sortie de crise. Est-ce que ça va donner, dans 2 mois, un effondrement du régime et l'avènement d'une démocratie suédoise en Iran? Ça serait magnifique. Ça arrangerait tout le monde, il y aura les accords du Cyrus. Les Iraniens sont un peuple assez pro-Israël, pas pro-Netanyahou. Mais ils n'ont aucun problème avec le peuple juif. Et c'est tout à fait envisageable d'imaginer demain une alliance entre l'Iran et Israël. Les Iraniens sont extrêmement américanisés, ils sont très occidentalisés.
Et puis on peut rappeler qu'il y a une communauté juive en Iran.
Bien sûr, une très grande communauté juive. Aux États-Unis, en Israël, il y a quand même des centaines de milliers de juifs d'origine iranienne. Donc ça, c'est le scénario idéal. Est-ce que ça va finir comme ça dans 2 mois? Je ne pense pas. Je pense qu'on va plutôt vers un désordre, vers un effondrement de l'État central. L'État iranien est très très faible. Je veux dire, je pense pas que ça va être une guerre très longue, parce que les Iraniens, ils ont un stock de missiles très limité, là où les Israéliens n'ont pas de limite dans leur avion de chasse ou dans les bombes. Donc il y a une supériorité militaire écrasante des Israéliens. Si les Américains rentrent dans le jeu, alors on n'en parle pas. Donc je pense qu'on se dirige, si ça continue, vers un effondrement de l'État iranien. Est-ce qu'on a tout prévu après pour gérer cette situation, nous en Occident et les Israéliens eux-mêmes? C'est là la vraie question. Mais l'État iranien, personne ne soutient ce régime fanatique. Et je pense sincèrement, on vous le dit depuis très longtemps, mais je pense qu'il vit quand même ces derniers temps. Je dirais pas ces dernières semaines ou derniers mois, j'en sais rien. Mais elle est quand même très très proche de sa fin.
Une courte intervention de Bertrand Badi, s'il vous plaît, pour qu'on ait l'occasion de réentendre Sylvie Kaufmann.
Est-ce possible?
Oui. On va voir.
Ah bah, attends, vous revaudrez ça.
Ne dites pas ça, vous allez, il va être plus long.
Je suis d'accord avec cette analyse. C'est absolument évident que ce régime est affaibli, mais il est beaucoup plus affaibli par sa société civile que par son environnement qui, paradoxalement, s'il est conflictuel, peut le renforcer. Pourquoi? Parce que dans le jeu international actuel, il faut davantage tenir compte des principes d'opportunité que, je dirais, du fol amour ou de l'alliance irréversible.
Si ils éliminent le guide, c'est quand même...
Oui, non, mais ça c'est autre chose. Mais cette attaque telle qu'elle a été menée, elle crée tout un ensemble d'effets de système qu'il faut prendre en compte. On a vu comment la réconciliation entre l'Iran et les États du Golfe s'était renforcée à l'occasion de cette attaque. Il y avait énormément de pommes de discorde entre l'Iran, l'Arabie Saoudite, les Émirats du Golfe. On a vu la réaction. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les pays du Golfe savent qu'ils seraient l'otage d'un conflit qui s'aggraverait dans la région. La Russie, vous savez mieux que moi, les Russes et les Persans, ils s'aiment pas beaucoup. Il y a un très long contentieux. Mais la Russie, c'est la seule porte de sortie de l'Iran vers le monde. Et la Russie considère l'Iran comme, dans la situation actuelle, l'un des rares alliés, entre guillemets, qui peuvent utiliser et mobiliser dans le conflit contre l'Ukraine. Donc, même M. Trump sait très bien que s'attaquer directement à l'Iran le mettra en face-à-face périlleux et qu'il ne souhaite pas avec Poutine. C'est un autre élément. Et troisièmement, cette société civile qui est au bord, iranienne, qui est au bord de l'implosion, elle considère effectivement qu'elle est maintenant menacée par des attaques qui se trouvent soutenues par les puissances occidentales. Et moi, j'ai reçu de Téhéran des messages absolument affolés. Mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils nous parlent comme ça? Pourquoi ils se moquent à ce point des victimes civiles qu'il y a à Téhéran? J'ai encore reçu un message il y a quelques minutes disant ce genre de choses. Non, mais qu'est-ce qu'il fait Macron? On comprend pas. Donc, je ne suis pas sûr que la situation tragique, épouvantable dans laquelle on se trouve actuellement soit une situation d'isolement absolu. Peut-être est-ce au contraire un champ d'opportunité qui s'ouvre. Maintenant, ce régime, il est condamné par sa société et c'est elle qui doit faire le travail. Exactement. C'est pas à tel ou tel d'annoncer véritablement qui veut voir à la tête de l'Iran. Et ça, il faut arrêter avec ce genre de politique néo-impériale. En fait, c'est comme ça qu'il faudrait l'appeler.
Sylvie Kaufmann, une des conséquences diplomatiques et collatérales, on pourrait dire, de ce conflit, c'est cette conférence internationale qui devait avoir lieu cette semaine, menée notamment par la France, en vue mercredi, de la reconnaissance d'un État palestinien. Est-ce que ça veut dire que cette question-là, elle devient accessoire et que quelque part, les Gazaouis, les Palestiniens sont un petit peu aussi, eux aussi, victimes. Alors, ils sont déjà victimes, bien sûr, mais encore plus peut-être suite au déclenchement de cette guerre.
Bon, cette conférence est reportée, on ne sait pas à quand, et pour des raisons évidentes, hein, ne serait-ce que logistique et physique, puisque MBS, donc le leader...
Mohamed
Ben Salman d'Arabie Saoudite a décidé de ne pas se déplacer, donc elle n'a pas lieu. Pour autant, la question palestinienne, elle ne disparaît pas. Elle continue d'exister. Donc, c'est vrai que un des exploits de Netanyahou dans cet épisode, c'est aussi d'avoir réussi à mettre la question de Gaza en arrière-plan et de l'évincer pour l'instant. Mais que ça soit la Cisjordanie ou Gaza, la question palestinienne subsiste. Moi, je crois que cette crise va être un révélateur. Ce conflit va être dans les jours qui viennent un révélateur très important aussi sur le rôle des États-Unis et des Européens. C'est-à-dire, je suis tout à fait d'accord que c'est un épisode très humiliant pour Trump. Il a quand même son envoyé spécial, Steve Witkoff, qui a rencontré 5 fois depuis 2 mois le ministre iranien des Affaires étrangères. Les États-Unis n'ont aucune envie d'intervenir militairement dans la région. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont écarté les Européens des négociations sur l'Iran, ils ont écarté les Européens des négociations sur l'Ukraine. Maintenant, c'est peut-être le moment est venu de voir si on peut agir autrement.
Merci beaucoup à tous les 5 pour cette discussion au cours de cette émission spéciale. Merci Sylvie Kaufmann, Thomas Gomard, Bertrand Badi, Farid Vaïd et Michel Tobman. Merci à Anne-Claire Bazin qui a préparé comme chaque semaine l'émission, à Luc Jean Reynaud qui l'a réalisé. À la prise de son, il y avait Anthony Thomasson. Bonne semaine et à dimanche prochain.